Bah voilà, trop chaud évidemment, et résultat j'ai oublié de lancer l'enregistrement et c'est le matos qui est tombé en rade en fait par la chaleur.
On peut le dire que tu as oublié, c'est la chaleur, tu étais déconcentré, tu étais perturbé, mais ça arrive à tout le monde.
De toute façon,
ça fera encore un truc à dire pour le procès-verbal de l'émission, l'occasion pour nous d'ailleurs de dire bonjour à nos auditeurs et d'accueillir Sabrina d'ailleurs.
Bonjour.
Voilà, qui viendra. Mais
j'ai fait le doublage parce que je savais qu'elle allait être trop loin du micro, donc on l'a refait une fois qu'elle sera mise proprement.
Bonjour.
Voilà. Bonjour. Voilà, Thomas, ma foi, qu'est-ce que l'on a cette semaine de suant, de chaud. Moi, je vous préviens, j'ai de la BD pour gamin. Hein, voilà, c'est pour commencer tranquillement. Thomas, je crois que toi, tu as une banane bleue volante tout à l'heure.
Non, j'ai un avion, un oiseau.
Oh, je sais plus. Non, c'est super. Pardon.
On a une baston surtout entre
Parker dans mon bureau de suite.
Super héros de comics.
Faut dire qu'on l'a préparé quand même depuis 2 mois quand même, voilà, cette spéciale.
Une baston, le clash entre les X-Men et Superman.
Non, ça, je veux. Les bouquins, c'est pour que tu les passes à Sabrina pour qu'elle donne tout à l'heure son avis, quoi. Soit. Elle a 5 minutes pour les. Ah bah, tu vois, je le savais. Ah.
Quoi, t'es tombé sur une BD qui t'intéresse?
J'adore mes lésines.
Voilà. Et du sport qui parlera aussi de Mike Hammer, du créateur de Mike Hammer qui nous a quitté et d'une manière absolument inédite par rapport à ses romans. Il nous a quitté sereinement. C'est très con. Et pas de moi, elle est de la dépêche AFP. Hein. Ceci dit, donc, cela fait un programme plutôt chaud et serré. Et si vous avez envie de sortir, de partir, d'en profiter un peu, d'aller à l'extérieur et tout ça.
Profiter du gros truc bleu qui s'appelle le ciel avec le soleil.
Ouais, ça fait dehors. Juste pour vous dire, par exemple, il y a un festival de musique qui a l'air assez costaud et dans lequel FMR est participant. Ce sera le week-end prochain et c'est à Biarritz.
Ça s'appelle comment?
Biarritz, j'ai oublié le nom. Il y a pas l'affiche là. Non mais attendez, on est partenaire, on risque de faire l'émission de là-bas en direct la semaine prochaine.
Bravo Xavier.
Bravo, c'est super, merci les gars. Et bah tant pis, voilà, tout ça pour faire la publicité pour le Presto. Le magazine Presto que l'on peut récupérer gratos à la radio et tout, et dans lequel vous avez tous les plans de l'été et voilà et tout le reste.
D'accord. Sinon vous avez Toulouse Plage aussi.
Ah ouais, ce qui paraît c'est ouais. Enfin bon. Enfin bon, je veux dire non, je suis méchant, c'est une belle initiative, Toulouse Plage, tout à fait original et inattendu.
Oui, oui.
Hein. Il y a pas à dire, hein, comment ça des magots. Ben voyons. Allons-y, on va peut-être partir. Ah putain, ça y est, j'ai pété mon câble.
On va peut-être partir dans la démonstration qu'on lit aussi des magazines et des journaux, nous aussi, dans la semaine.
Qui c'est qui va piquer?
Alors, tu as oublié quoi? Un CD?
Non, le planning s'est enfui sous le truc. Mais non, j'ai oublié du sport, et d'ailleurs ça tombe bien, il arrive. Intro!
Bravo!
Ah non, du coin de l'œil, hein, vous avez
non,
vu.
Non mais là, franchement, il faut que tu enlèves la casquette, là, c'est pas possible. Non mais tu...
Ah l'enfoiré, c'est... oh le provocateur. Alors pour nos amis téléspectateurs qui n'ont pas la couleur, donc je signale que la casquette est bien marquée bleu, mais bien en bleu.
Italia.
C'est
quoi ça? Moi je signale, j'ai toujours pas rebouffé de l'italien moi depuis. Enfin si, le soir de la finale, mais c'était un coup bas en fait.
D'accord, c'est
en
sur
plus,
ces mots...
Attends, mais il affiche en plus sur la porte, qu'est-ce que c'est que ce truc?
D'accord, donc c'est sur ces mots d'une intolérable cruauté dans un esprit totalement
quoi.
Sportif que Supplément Week-end va commencer justement sa revue de presse.
Je suis fâché.
Je veux pas savoir, on commence la revue de presse avec, pour du, c'est, je le réserve plutôt pour du sport. La télé à cache-cache, c'est les dossiers du Canard Enchaîné qui en fait recoupe une partie des articles qu'ils ont fait pendant l'année, des caricatures et des dossiers spéciaux qu'ils font exprès justement pour ce genre de numéros spéciaux. Alors c'est bourré d'inexactitudes, d'erreurs, d'imprécisions, des chiffres qui sont faux, parfois de faits qui tiennent de l'histoire de la télévision qui sont un peu erronés, mais néanmoins... On rigole beaucoup à propos des sagas, comment elles sont financées. Vous savez, les sagas de l'été de la télévision française, ou encore pourquoi les séries de télévision produites en France sont... Comment dire ? Allez, je vais seulement faire une production de la page 69. Navarro contre les Sopranos. Le face-à-face résume à lui seul l'océan d'audace et de créativité qui sépare les séries françaises de leurs consoeurs américaines. Déjà, ça fait bien rire.
Attends, et... c'est pas dans les Sopranos qu'ils auraient fait.
Ouais, j'ai fermé doucement parce que tourner... parce qu'on entendait du bruit dehors, quoi. Ouais, ouais, je sais.
C'est pas dans les Sopranos qu'ils oseraient faire tourner ni Philippe Nicolic, quand même. Hein. On est audacieux chez nous. Bon,
non, je suis en train de dépanner la fenêtre, ok, tiens, du sport, c'est pour toi.
Ça commence bien,
c'est lui qui le chroniquera peut-être beaucoup mieux que moi, puisqu'on parle de sport télé, on parle de faux. Alors attention, hein, les chiffres, à mon avis, sont un peu erronés. Thomas, de ton côté, qu'est-ce que tu as ?
Moi, j'ai du jeu vidéo avec une revue qui s'appelle Console Syndrome. C'est le numéro 4 de juillet, mais c'est le numéro d'été surtout. Et alors, c'est le petit plombier moustachu qui est en couverture Mario. Et de façon, du sport, il le dit mieux que moi. Et là...
Eh, Mario l'hydraulico !
Voilà, donc dedans, c'est des dossiers assez sympathiques, assez argumentés. Bon, c'est on voit que c'est fait par des jeunes fans.
Enfin, on voit surtout que t'as pas préparé ta rubrique.
Bah si, mais bon, après, je sais pas trop ce qu'on peut dire dessus. C'est agréable. C'est pour ceux qui seraient tenus un peu à l'écart de l'actualité vidéoludique des deux dernières années. Donc là, tu peux rattraper un peu ton retard. Ils expliquent notamment la différence entre les deux jeux de gameplay entre les FIFA et les Pro Evolution Soccer. Puis c'est assez intéressant.
Ouais, c'est bien amené. Ouais.
Un gros dossier sur le. Ouais, c'est ça. Ouais, tu l'as pas lu en plus.
Et si je t'avais dit que je trouvais la maquette difficilement lisible pour certaines colonnes et tout.
Ouais, mais tu as regardé que les colonnes, t'as pas regardé les articles.
Mais tu ne soupçonnes pas rapidité de lecture.
Bon, en tout cas, c'est une revue qui est assez sympa, 3€ quand même. Dossier sur Silent Hill, sur les influences cinéma de Hideo Kojima, le créateur des Metal Gear. Et voilà, et puis diverses petites choses assez sympas. Console Syndrome numéro 4, c'est le numéro de juillet 2006, de cet été 2006, juillet-août. On continue avec du cinéma maintenant, avec Score, le magazine du cinéma numéro 21, 4,50€, avec un énorme numéro, puisque ça fait, il est bimestriel, il devient bimestriel le temps de l'été, et ils ont ajouté en plus de Snack, le supplément magazine pour la culture DVD. Ils ont ajouté aussi Fandom, c'est un petit fascicule aussi, le domaine des fans, cinéma culte, fantastique, comics. Et il parle justement de l'utilité de faire les remakes avec une interview d'Alexandre Aja qui s'est occupé du remake de La Colline à des yeux de Wes Craven. Et ils reviennent sur des exemples. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des remakes? D'où vient la mode des remakes? Pourquoi il y a les films d'horreur des années 70 qui sont assez à la mode aujourd'hui, qui se font tous remaker en série? Et voilà, et donc t'as aussi une interview du nouveau cinéma de genre russe et un dossier. Enfin,
tu as dit un truc assez amusant d'ailleurs hors antenne à propos de cette interview, à propos du réalisateur.
Oui, d'ailleurs. Ben en fait, les réalisateurs américains, les réalisateurs qui ont un peu de bouteille, genre McTiernan ou le truc comme ça, tu vois, ils disent toujours oui, c'est désolant parce qu'avant les étudiants en cinéma, leur idole c'était Bergman, c'était Truffaut, c'était Godard, et aujourd'hui ces prépubères adolescents étudiants en cinéma, leur idole, leur dieu, c'est Michael Bay, le réalisateur d'Armageddon, Rock et Island et Pearl Harbor. Et alors d'habitude, tu entends toujours ce discours de la part des vieux qui critiquent les jeunes, et là c'est un réalisateur russe assez confirmé, assez expérimenté qui dit mais Michael Bay, mais c'est mon dieu.
Voilà.
Il raconte aussi il était dans
la seconde lecture de Dieu, la seconde lecture de Thomas, voilà, des interviews, c'est intéressant quand même, fallait pas y échapper.
C'est assez rigolo aussi parce qu'il témoigne de ce même réalisateur russe. Il dit qu'une fois il était dans un avion et il y avait un réalisateur de film d'auteur qui était dans le même avion que lui. Il était en train de regarder un DVD sur son ordi portable, il était en train de regarder le DVD d'Armageddon, et à la fin, la fin du film, le réalisateur de film d'auteur, il pleure parce qu'à la fin, bon, ceux qui savent pas, il y a Bruce Willis qui meurt en fait. Et donc il va le voir et puis l'autre il referme en vitesse son ordi et puis il dit, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Bon, un documentaire. Souligner l'hypocrisie de Messina se confirmer. Voilà, c'était Score avec beaucoup beaucoup de suppléments, dossier sur Kitano, Selon Charlie, nouveau film de Nicole Garcia, etc. et plein de bonnes choses. Aussi un gros dossier sur Pirates des Caraïbes 2 et Superman, l'occasion de revenir pour eux sur la mode des blockbusters, comment c'est venu, d'où vient cette expression, etc. Voilà, c'est le numéro d'été Score et c'est le numéro 21, 4,50€.
Midi, 15 minutes exactement sur FMR, la poubelle des radios. Vous écoutez le supplément week-end. On va entamer les bandes dessinées. D'ailleurs, sort le gros bouquin et montre-le à du sport. Tu vas voir l'effet, ça va être radical. Yo Ballard! Puisqu'il s'agit donc dans la collection Patrimoine BD qui est animée par Glénat d'un très gros bouquin d'environ 200 pages qui est consacré au dessinateur Gottlieb. Pardon, excusez-moi, j'ai dit dessinateur. C'est une erreur. Il s'agit de Nanar, Jujube et Piette, une vieille série effectivement animée par Gottlieb il y a un certain temps. Mais Gottlieb, il est de certains scénaristes un apport tel que sans eux, la bande dessinée franco-belge serait bien morne. Car il ne faut pas rendre hommage à Gottlieb uniquement en tant que dessinateur, loin de là. Ce serait oublier un peu vite ses projets qu'il ne dessinait pas mais qu'il confiait à des tiers. Tel Super Dupont avec Jack Loeb. Et puis Super Dupont est un super-héros français, donc il faut le prononcer à la française, donc Jacques Loeb et Soleil. Cinéma Stock, qui a été dessiné par Alexis. Clopinette, qui a été créé avec Mandrika, et dessiné par Mandrika pour l'Écho des Savanes, la toute première Écho des Savanes, hein. Je parle pas du truc avec des filles à poil, loin de là. Mais aussi, ses scénarios de films courts et de longs métrages, allant du format A5 jusqu'au format Grand Raisin. Mais d'où vient le talent de Gottlieb pour un humour froid, décalé, et plus british que franco-belge? Dans quel laboratoire a-t-il mis au point son fameux fluide glacial? En 1962, Marcel Gottlieb entre dans le journal Vaillant, qui, par manque de chiens et de cadeaux bonus, ne s'appelait pas encore Pif Gadget. C'est là qu'il va y créer les personnages ô combien éternels que sont Nanar, Jujube et Piette. Mais le public est ingrat, et ne retiendra qu'un vulgaire second rôle de sac à puce, j'ai nommé Guéluron. Mais ce cabot n'était pas né spontanément. Et non, il est en fait le chien du voisin de Nanar et Piette, les deux mioches dont il est question dans le titre et la couverture, apparu 3 ans plus tard après le début de la bande dessinée. Et à force de ruse, voyez la vedette au renard Jujube qui ne se nourrit pourtant que de purée de pois chiches. C'est vous dire combien le renard est quand même bien gentil et innocent. En fait, c'est toute l'évolution de l'humour de Gottlieb que l'on voit se faire dans cet album. Comment en 3 ans, il est passé de gags relativement classiques à de plus en plus de nonsense, d'humour décalé. Pendant les 10 années de cette série, on va non seulement son dessin s'affirmer, s'affiner comme un bon fromage, mais son talent de scénariste se charpenter comme du bon vin. Il va continuer sa participation hebdomadaire à Vaillant, puis à Pif Gadget, avec la série Nanar, Jujube et Piette, jusqu'en 1972. Pendant ce temps-là, il entre comme jeune mousse sur le navire Pilote, en 1965, avec René Goscinny comme prof de scénario sur les Dingo Dossiers, puis lance sa célèbre rubrique à braque, absolument éternelle, évidemment. Il envoie Hamster Jovial camper dans cette revue qui est un exemple pour la jeunesse, je veux parler de Rock'n'Folk, et part bouder avec Mandrika et Bretoché en fondant l'Écho des Savanes en 1970. Une activité débordante où son essaim se fait s'affirmer, justement, et son humour devenir de plus en plus sophistiqué. Les premières victimes de cette évolution furent dans Nanar, Jujube et Piette, les oncles Basile et Blaise, puis bien plus tard les Pitchouns, Jujube et Piette. Le renard... c'est pas Jujube, pardon, c'est une erreur de frappe. C'est Nanar et Piette. Mauvaise relecture. Le renard Jujube, bonne patte, viendra un petit peu tiendra un petit peu plus longtemps, mais cette hécatombe n'en échappera que Guéluron qui reviendra dans Flic Glacial dans quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, la clôture, le dernier gag de Nanar, Jujube et Piette dans la série, et ben on voit Guéluron qui est tout heureux et qui dit « J'ai réussi à faire rire Jujube, je suis trop content », alors que Guéluron est tout sauf drôle. Un grand auteur naît sous nos yeux à la lecture de cet épais album. Les planches sont assez vieilles. On est moins habitué à ces dessins tramés en noir et rouge, mais on aurait franchement tort de se priver de ces sucreries. Marcel Gottlieb, Nanar, Jujube et Piette, c'est dans la collection Patrimoine BD chez Glénat. C'est un gros tome qui ira très bien d'ailleurs, à mon avis, pour des plus vieilles générations. C'est quand même assez agréable. Non, c'est pas la peine de le montrer à la caméra, elles sont éteintes. Bon, je tiens à rappeler que toutes ces chroniques bandes dessinées que l'on fait dans cette émission, enfin en tout cas la grande majorité depuis maintenant un sacré bail, elles y sont pas toutes depuis les tout débuts, mais toutes les émissions sont écoutables en ligne sur un site qui en fait est mon blog, sur lequel Thomas a aussi les clés puisqu'il fait des chroniques cinéma qui sont pas ses notes, elles sont revues après, il les complète après, etc. Les chroniques BD telles que je les lis sont, après elles sont un petit peu recorrigées, notamment pour les fautes comme ça, elle est énorme. Sont disponibles.
Un coup de stylo.
Un coup de stylo, ouais. Tu peux le noter. Donc sont disponibles sur le site internet. C'est vous allez sur le site de la radio www.radio-fmr.net. Vous cherchez le lien et vous tomberez dessus. Et qu'est-ce que l'on fait?
Et attends, oui, mais tes chroniques BD, elles sont aussi reprises sur le site Actua BD.
Si, pas toutes.
Si elles sont bien corrigées et si elles sont acceptées par le au comité
rédactionnel
très sélectif.
Ouais, dire que je fais partie du comité antenne autoproclamé de Radio FMR, je me fais censurer par le chef de rédaction de Actua BD. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aurais juste une chose à dire. Aujourd'hui, nous fêtons dans cette émission le 500e billet de mon blog. Ça se fête et en musique. C'est le générique de la dernière saison, évidemment.
C'est le blind test, attention.
Ah, allez, qu'est-ce que c'est ?
Sabrina, tu regardais pas peut-être. Si je te dis, la dernière saison, c'était Vincent Pirot qui animait.
Ah, c'est quand même...
Il y avait un vengeur masqué aussi dedans, dans l'émission.
Il y avait aussi un espèce de casse-cou en hydroavion.
Oui, Flagada. Alors, l'émission, c'était...
Je suis désolé, je vois pas.
Il y avait les aventures de Winnie l'ourson avec des mecs en costume.
Et Jean Rochefort en intro.
Ah, mais c'est...
Même du sport, il sèche. C'est pas de son âge aussi. C'est notre génération, c'est ça qui est étonnant. C'était le générique d'introduction du Disney Channel.
Ah. Channel sur FR3.
Voilà, on a les images du générique de l'époque.
Ah, ça remonte à longtemps là.
Eh oui, là,
bah oui, quand t'étais petite.
Oui, j'avais 3 ans là.
Ouais,
mais
à peu près.
T'avais pas 3 ans.
5.
Oui, voilà.
Mais 5 ans.
Bon, d'accord, ok.
Comme toi, t'avais 4
bah,
ans.
Bah non, oui, mais moi je m'en souviens.
Wow. On continue les chroniques bande dessinée. Avec la petite sucrerie qu'elle a encore.
Je suis vieille aussi.
Ouais, oui, bon, d'accord, ça, ok.
Et donc, finalement, le 60e billet, c'était quoi? C'était Gotham?
C'était uniquement la musique, c'est comme ça, voilà.
Oui,
ça
mais c'était lequel alors?
Non, ce sera la musique.
Ah, c'était la musique, le 500e.
Ah, ce sera tout.
D'accord.
Voilà. Et le 501e, ce sera un scénario de Gilson et un dessin de Clark, puisqu'il s'agit de Mélusine. Le tome numéro 14 est sorti depuis environ quelques semaines en librairie et disponible chez Dupuis. Il s'appelle La cuisine du diable. Ah, Mélusine, c'est une sorcière qui a tout dans Sorceleuse. Elle suit un Doug en sorcellerie, elle est fille au père chez un vampire et une fantôme, sa tante aussi est sorcière. Sa meilleure copine est une catastrophe comme binôme pendant les manips. Merci Mathieu de m'avoir bien rattrapé. Sa cousine est une fée absolument nunuche et je vais dire disneyienne. Son petit ami est un loup-garou. Ah oui, elle est poursuivie par un inquisiteur qui tient absolument à faire un michoui géant avec elle. Bon, c'est un gros gâchis quand même, c'est une belle. Elle a un beau corps, elle est jolie, elle est mignonne. Et le soir, autant il y a les TP du lendemain, les partiels de la semaine prochaine à bûcher, autant il y a la dame acariate, jamais insatisfaite du menage qu'elle mène dans le château. Monsieur qui se colle un peu trop à elle, et il faut vraiment essayer d'éviter ses baisers. Hein. Question de vie ou de mort. Et les autres occupants, comme le majordome qui veut absolument bouffer le chat, et il s'appelle pas Alf, pourtant le majordome. Une vie qui n'est pas de tout repos. Ça compense le manque de discothèque dans ce trou perdu, et faut dire que plutôt qu'y aller en scooter, elle y va en balai volant. ça jase un peu, vous imaginez, vous allez au Macumba, vous allez à l'Aposia, vous voyez, vous arrivez avec votre chapeau de forme, etc. Mademoiselle, vous pouvez pas rentrer avec ce balai. Ah oui, mais sur le parking, l'antivol il marche pas, vous pouvez me le garder. Enfin bref, c'est un peu ridicule. Charmante mais pas allumeuse, elle séduit petits et grands. C'est vraiment une bande dessinée qui est très agréable par son côté, par son ton dépouillé, par son humour qui est assez particulier. Et surtout, c'est surtout une série qui est largement plus grand public que les Démons d'Alexia dont on a parlé plus récemment, qui sont des gags en une planche, donc c'est un peu plus facilement lisible. Ce sont des gags qui jouent aussi bien sur le côté nonsense que la manière... je vais dire le script qui tient un peu des fois au sous-doué fond chamanisme sup. Bref, c'est vraiment une série qui m'a envoûté depuis les tout premiers albums et j'en suis fan. Trouvaille des auteurs pour cet album incorporé dans les matières obligatoires du cursus de Mélusine, la cuisine. Et ça, eh ben les cours de cuisine, c'est la soupe à la grimace chez Mélusine. Néanmoins, la série commence un petit peu à s'essouffler, ça se ressent sur les 4 derniers albums, ça manquait un peu de rythme et d'entrain. Mais où est passée la magie de tous les débuts ? Ah, Gilson et Clark. Le 14e Mélusine vient de sortir, ça s'appelle La Cuisine du Diable et c'est chez Dupuis.
Je crois que ton livre a été chouravé.
Non, ça on avait dit qu'on en parlait plus à l'entrée, si c'est pour
je
ça que
sais,
tu me fais reprendre
je
le
fais exprès.
Voilà, c'est en train de discuter là de technique, mais de technique un peu particulière puisqu'on est en train de discuter.
C'est du foot, ouais, du foot.
Mais ils confondent Marcel de Sailly avec Djibril Cissé.
Voilà, Marcel de Sailly c'est pour le troisième âge et Djibril Cissé c'est pour les jeunes.
C'est celui qui a les jambes en balsa.
Et tout ça en parlant de casque de radio, quoi, voilà. du dernier Sennheiser que j'ai sur les oreilles et qui est une catastrophe. En plus, je crève de chaud dessous, c'est une horreur. Heureusement, Thomas va lancer DJing. Il a fait un classement cette semaine.
Tu veux pas respirer avant ou...
Pas trop loin, pas trop loin.
Non, là, on met la respiration après, moi je pense c'est mieux, puisque bon, comme d'accord. ça me permet de rebondir en mettant les malpolis d'ailleurs, dont j'ai oublié de caler le disque. Bah oui, non mais attends, c'est du direct, je veux dire, on n'est pas assisté par une organisation informatique sans faille, loin de là, hein, je veux dire, quoique, enfin bon, on va y aller, mais je veux dire que Thomas s'est dit bon, je vais y aller à fond sur les super-héros à cause du dossier qu'on a préparé depuis un bail.
Oui.
Et vous dire qu'on l'a tellement bien préparé, c'est qu'on l'a tous fait ce matin.
Voilà,
hein, à l'arrache.
Ouais, on s'est passé
même du sport.
Hier.
Même du sport, ils nous regardent du style. Ouais, tout à fait. Oui.
Bah, du sport, il comprend pas pourquoi on s'étonne que ce soit fait ce matin. Lui, il fait tout le temps ça, lui.
Et tout ça pour vous dire que bref, on s'est intéressé aux super-héros adaptés au cinéma et que du coup on a trouvé tout plein de super-héros adaptés au cinéma.
On en a fait un classement même.
On en a fait une sélection, on en a fait un classement et sur le classement on en a réservé 5. Qui dit classement dit 5, dit
le top 5. Numéro 5.
Numéro 5, X-Men 2.
D'accord, on y vient juste après, donc voilà.
Numéro 4.
Numéro 4, Blade 2 avec Wesley Snipes. C'est où il arrête pas de remettre ses lunettes.
Ouais. C'est pas vraiment un super-héros, c'est plutôt une histoire de vampire d'ailleurs. Et puis voilà.
Numéro 3.
Spider-Man 2. Qui est très bien d'ailleurs. Oui, très très bien. Avec Angela Molina qui était parfait.
Numéro 2.
Batman Returns. Avec le pingouin et Catwoman.
C'est marrant, c'est encore un numéro 2 là.
Oui, oui.
Dans le top 2.
On a que des deux.
Que
en fait.
Des deux, oui.
Ouais. Ah ouais, il y a que des deux. Tu es sûr? Même pour le numéro 1, s'il te plaît?
Numéro 1.
Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Mais c'est pas un comics.
Non, mais c'est super héros.
Mais c'est quand même un numéro 2.
Eh oui.
Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre?
Évidemment, ce classement est totalement arbitraire
et réalisé par l'équipe de Supplément Week-end au petit matin. Voilà.
Et vous nous en voudrez sûrement de l'avoir oublié plein.
Ça, c'est normal. Et n'oubliez pas, vous pouvez justement nous massacrer. On mettra un billet exprès pour le top 5 et allez-y, massacrez-moi ça et bisous.
Sabrina, tu voulais mettre les Quatre Fantastiques peut-être dedans.
Il n'y a pas encore eu numéro 2. Il n'y a pas encore eu numéro 2, les gars.
C'est vrai. Non, mais bientôt.
Oh putain.
Il y a le Surfeur d'Argent dedans.
Ah, donc il y a la pub pour Onel. Les planches. Pardon. Les Malpolis tout de suite avec une histoire de super-héros, c'est pour introduire. Et il est midi 30 et pas de pub. Voilà.
Les oraux, les Robins des Bois, dont on avalait les exploits. Sans trop se poser de questions, quand on était petit garçon, tous ces vengeurs, ces justiciers, tous ces super-héros masqués. Je vous le dis après mûre réflexion, en fait c'est rien que des sales cons. Des types qui ramènent leurs fraises sur les crimes ou la corruption. Et qui décident tout seul à l'aise de faire respecter à leur façon l'ordre et de rendre la justice. Moi j'appelle ça des poujalistes ou des fachos, ou même les deux. Et Superman vaut pas mieux qu'eux. Les super-héros, en gros, c'est pas des démocrates. Les super-héros, s'il faut la moitié vote à droite. Les redresseurs de tort, faut pas que ça se croit au-dessus de la loi. Superman, il se la raconte, c'est qu'un flic qui bosse à son compte. Quant aux héros qui agissent masqués, quel courage, assez du joli. Batman veut pas qu'on sache qui c'est, mais se prend pas pour n'importe qui. Les super-héros, en gros, c'est pas des démocrates. Les super-héros, s'il faut la moitié vote à droite. Les super-héros, en gros, c'est pas des démocrates.
Tout le monde en parle avec les Malpolis, la fin du retour de la chanson française. C'est leur troisième album, il est disponible chez Willing Productions, distribution Mosaic Music. Non, j'arrête, il est parti l'homme en noir. Mais donc, les super-héros, bah, c'était un bon moyen d'introduire. Puisqu'on vous explique quand même que on a fait au long cours un sketch qui s'appelle le Fantasy Mondial. L'idée, c'était tout simplement de préparer la finale. Et la finale, c'était la confrontation entre X-Men et Superman. Et finalement, c'est la confrontation entre DC et Marvel. C'était une manière sketch pour moi de faire passer mon aversion au foot et qui, je crois, est totalement partagée de ce côté-là.
Pas du tout.
Comment ça, pas du tout?
Non, pas du tout. T'es assis à Sabrina aujourd'hui.
Oui.
Oui, mais bon, du sport, lui, au moins, il aime le foot. Et
ouais, ça fait match nul, quoi, 2-2.
Bon, d'accord. On fait un tir au but après. Sinon, donc, eh ben voilà, on arrive à la finale du Fantasy Mondial, du Supplément Week-end, avec le match Superman versus X-Men. Alors, lequel de ces deux licences a été le mieux adapté au cinéma et c'est le mieux commercialisé, puisque là-dessus, voilà, c'est la bonne question. Eh ben, on va en poser les grandes lignes de suite.
Nous allons en débattre, puisque je crois qu'autour de cette table, tout le monde a vu à peu près tous les épisodes. Les 3 X-Men, je crois qu'il y en a quelques-uns qui l'ont pas vu.
Moi,
en
j'ai pas
cas,
vu
Superman,
le
3. On l'a tous vu. Donc,
non,
ça tombe.
Non, 5. Il y a eu un Superman 4, mon cher ami.
Oui. Oui, oui, c'est vrai. Bah, moi, j'ai vu que le 1 et, le, et celui-là. Le, donc, c'est, ça, c'était le combien? Le 5, celui-là? Ou le 6?
C'est, ben, c'est le 5, ah, logiquement.
Oh là là.
Donc, Superman Returns du sport.
Comment?
Non. D'accord, ok, c'est rien, c'est l'âge.
Je suis en train de lire Trax, quoi.
Bon,
Superman
du sport, d'habitude, lit de la presse télé, ou lit Libération, ou lit l'équipe. Là, non, il lit Trax avec Radiohead. Et c'est un vieux, celui-là, c'est un numéro de septembre 2001, c'est moi qui l'avais amené.
Non, tu rigoles.
Ah, si, si.
Ah, bah, t'as raison.
Ouais. La nouvelle n'était pas très fraîche.
Bah oui, ça faisait partie des 2 mètres cubes de journaux que j'avais amené à la radio. Non, mais c'est vrai, en plus, il y en a encore quelques-uns là-haut. Bref, tout ça pour vous dire, Thomas, à toi revient l'honneur de décider qui est le super-héros le plus photogénique.
Bah déjà, oh, tiens, du sport, il a l'équipe magazine que j'ai loupé.
Bon, d'accord, pardon. Ok. Non, mais à la limite, je veux bien que l'on parle d'adaptation de super-héros en bande dessinée avec ce superbe dessin quand même de Enki Bilal, mais bon.
Sur Zidane, oui.
Ouais, bah, je voulais commencer ma rubrique avec ça, justement. Vous me cassez le cou, alors bon, tant
bon,
pis.
Bon, désolé. Thomas, commence Thomas, sinon ça va tourner à la cata.
Ok, ben, ouais, on va faire une chronique à plusieurs, en fait.
Vous écoutez Radio FMR, les 12h38 minutes et 25 secondes. Vas-y.
Disais, on va faire une chronique à plusieurs, puisqu'il va falloir parler successivement du dernier opus de Superman et de la franchise X-Men, sachant que ça va être un peu chaud d'en parler uniquement d'un point de vue cinéma, puisque c'est le même réalisateur qui a quasiment fait tous fait, puisque c'est Bryan Singer qui a exporté l'univers qu'il avait mis en place et les codes de représentation de super-héros qu'il avait mis en place sur X-Men, et qu'il a déménagé chez Superman. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a les dessinateurs qui sont interchangeables en bande dessinée, et les réalisateurs maintenant ils deviennent aussi au cinéma, donc c'est assez rigolo. Déjà, on va peut-être parler du dernier Superman qui est sorti, et puis après on essaiera de faire les comparaisons avec la franchise X-Men.
D'accord.
Donc je pense que là il y a une analyse un peu positive là du dernier Superman là, autour de cette table, puisque on a sensiblement tous aimé le film.
C'est vrai que il y a un consensus général. Il est bien.
L'histoire, je crois, du sport avait été particulièrement emballé par l'histoire, le scénario était solide, assez original par rapport aux autres.
Ouais, malgré quelques longueurs, hein, on va dire quand même, plus dû en fait à l'essai qu'a voulu faire Bryan Singer de positionner Clark Kent, quoi, la personnalité de Clark Kent. Mais en fait, il ressort que c'est plus Superman qu'on voit dans le film, et c'est plus le côté Superman qui est vachement intéressant dans le film que le côté Clark Kent qui est un peu chiant, quoi, on va dire, par moment traîne un petit peu en longueur. Surtout que bon, bah la messe a l'air d'être dite, hein, vu que Lois Lane est mariée, qu'elle a déjà un gamin. Donc bon, bah voilà, comment ça va se passer? Bah c'est peut-être là que ça va être le plus intéressant dans le Superman à venir.
Encore en numéro 2 qui va peut-être être classé dans le futur top 5. Sabrina, puisque
oui,
tu es là et que tu l'as vu, est-ce,
oui,
que tu peux nous dire ce que tu en penses? Que peut ressortir une appréciation féminine sur le personnage de Superman?
Bon, ben déjà, le personnage, il est plutôt beau gosse. Donc,
merci.
Merci, donc.
C'était un point de vue féminin, je suis désolée.
Alors, d'après, okay, Christopher Reeve ou Brandon Routh?
Bah, c'est pas la même génération aussi. Donc la génération de nos parents, je dirais ma mère préférait peut-être plus Christopher Reeves, paix à son âme, et la nôtre, je dirais plus les jeunes filles prépubères.
Non, dis pas ça, on va avoir une alerte Spice Girl.
Trop tard.
Non, les filles. Ok.
Non, ce qu'il y a de particulièrement frappant dans ce qu'a fait Singer, c'est qu'on a vraiment l'impression que Christopher, le Superman de Christopher Reeve était beaucoup plus figure paternelle en fait, était beaucoup plus adulte, alors que Brandon Routh, il a quand même la fraîcheur d'un gamin encore.
Mais il a notre âge, je te signale.
Il est vraiment assez.
Il a ton âge.
Il a une figure angélique en fait, on peut dire. Mm. C'est quelqu'un qui est assez beaucoup plus naïf que Christopher Reeve. Il a une présence un peu plus, on peut dire même christique. Hein. C'est assez beaucoup plus féminin que Reeve d'ailleurs.
Oui, c'est plus efféminé, oui, ça ouais. C'est sûr.
Enfin, pas efféminé, mais plus androgyne, on va dire.
Tout à fait, ouais.
Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de souligner le. Ah, merci Xavier. L'occasion aussi de souligner l'effort sur le look de Superman. Puisque, exit les couleurs criardes, bleu, rouge.
Il n'y a plus de jaune, hein.
Non, c'est ocre ou assez délavé.
Non, ils ont désaturé, ils ont réduit la luminosité et ils ont réduit la couleur. Oui. Ils ont réglé leur téléviseur. Il faut dire aussi que le costume de Superman a été rendu de manière immortelle sur l'écran d'argent, je vais dire, par les frères Fleischer. Et à l'époque, c'était Technocolor à mort. Et ça donnait à l'époque ça.
Newspaper fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way.
D'ailleurs, on parlait du scénario tout à l'heure, on n'a pas été assez complet puisque la grosse astuce du scénario de ce nouveau Superman, c'est que Superman a disparu pendant 5 ans, puisqu'il est parti se ressourcer auprès de sa planète, pour savoir, puisqu'il y a des astronautes qui ont découvert des restes de la planète Krypton.
Astronomes, ils n'ont pas été allés sur place.
Oui, on est astronomes, voilà. Et donc, du coup, comme il a été absent... Lex Luthor, il a pour une remise de peine, et bien il avait besoin du témoignage de Superman. Enfin, le procureur avait besoin du témoignage de Superman pour faire que Lex Luthor reste en prison. Et puis Superman, il maîtrise pas très bien la justice américaine, puis comme il s'est pas présenté, Lex Luthor a été libéré.
Et c'est peut-être ça qui est intéressant d'ailleurs dans Superman, c'est cette astuce scénaristique, c'est-à-dire son absence pendant 5 ans, puisque en fait, justement, Superman a toujours été très ancré au niveau politique, du moins dans ses origines, jusqu'à l'arrivée du Comics Code, c'est-à-dire l'équivalent du code Ice dans la bande dessinée américaine dans les années 50. C'est-à-dire que Superman, au début, il casse du nazi, normal, puisque les auteurs sont des juifs expatriés, des juifs natifs, excusez-moi, de New York. Il casse ensuite du jaune, il casse ensuite du communiste, et puis après, on dit, bon, on réduit un peu, etc. Mais du coup, Superman, il n'a pas été là pour le 11 septembre 2001. Et du coup, justement, c'est l'une des astuces de l'histoire vis-à-vis de Lois Lane, c'est l'article qu'elle en fait.
Et qui lui vaut le prix Pulitzer.
Et qui lui vaut le prix Pulitzer. Et là-dessus, il faut avouer, c'est une très, très très bonne idée, justement, parce que ça permet de réancrer Superman au niveau politique. Quelque chose que, justement, on traitait Superman de vieillot dans les années 60-70, parce qu'ils essayaient de garder le sceau du Comics Code Authority, donc de garder, y passer par les ciseaux des censeurs qui n'étaient pas imposés par l'État, mais par l'industrie du comics. Pour dire, voilà, on fait de la bande dessinée vraiment pour jeunes, qui est accessible pour eux, etc. Alors que pendant ce temps-là, Marvel, avec les DC, eh ben, ils s'en moquaient, et puis voilà, et vas-y que ça charcle du terrien, ça charcle dans l'armée américaine et tout. D'ailleurs, le degré de violence dans le X-Men 2, justement, dans le film, là-dessus, le montre bien. C'est l'opposition vis-à-vis de l'État, rebelle attitude et tout le reste.
Bon, d'ailleurs, le degré de violence dans X-Men, on y verra, reviendra plus tard. Mais d'ailleurs, tu parlais de l'article de Lois Lane, il faudrait préciser de quoi il parle. C'est pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman. D'ailleurs, ça sera assez intéressant de tomber sur cet article. D'ailleurs, s'il était sur le site officiel du film, je pense que ce serait assez intéressant. Donc voilà, pour moi, la principale force du film, c'est que les scénaristes et l'équipe visuelle, ils s'étaient quand même pas gagnés d'avance, puisque c'était quand même le super-héros avec le look qui a le plus mal vieilli quand même. Avec Hulk qui prête toujours à rigoler quand tu parles de Hulk, ouais, un monstre vert, tu comprends même pas pourquoi ils en ont fait un film. Et bon, Superman, heureusement, Sam Raimi était arrivé avec Spider-Man qui a un peu les mêmes couleurs, donc il avait déjà réactualisé, le public s'était un peu habitué à ça.
Plus tardif, hein, quand même. Spider-Man est apparu dans les années 60.
Je veux parler du film, moi. Avec Sam Raimi a déblayé le terrain avant, et justement, ça a permis. Bon, il n'est pas en slip non plus, Spider-Man. C'est pas facile. Donc, justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de plans avec le slip, hein, dans le film. Il y en a quelques-uns, mais justement, j'ai juste tombé sur l'article d'une interview de la costumière, justement, qui parlait justement le slip. On a un peu rajusté la culotte. Il y a des plans de fou sur les bottes. Je sais pas si vous avez remarqué dans le film. Les bottes de Superman avaient des semelles énormes.
Des semelles compensées.
Compensées,
oui. C'est les gros pieds.
En fait, c'est un drag
queen. Ouais, non, ça fait un peu moon boot, quoi.
Superman est un drag queen.
Note, c'est mieux que Batman est un nain. Hein. Bonjour, je suis la fille que tu dois protéger. Bonjour, je ne fais 1m60.
Moi, je reste juste sur une déception concernant le film. C'est qu'à un moment donné, évidemment, il faut que Lex Luthor utilise la kryptonite, sinon ce ne serait pas un film de Superman. Et la scène où il utilise la kryptonite, justement, ils auraient pu aller beaucoup plus loin tout en restant dans le film familial. Et moi, j'étais déçu, quoi. Je me dis, ils auraient pu aller plus loin, ils auraient pu le bastonner, chacun avec une de la kryptonite taillée en pointe, et puis chacun il avait son coup.
Ouais,
et là,
parce que bon,
c'est
un moment, il se fait latter la gueule par les sbires et tout, ouais. Tranquille, mais enfin bon, ça reste calme, quoi, on va
ça
dire.
Reste
ça reste
calme,
gentil,
il saigne même pas. Ah bah oui, non, c'est pas possible de le faire saigner, mais bon, voilà.
Mais étonnamment, ils arrivent à le rendre incroyablement humain. Mais c'est vrai que ça, ça reste à voir après, ceci dit. C'est vrai que comme c'est le même réalisateur, qu'il a fait un film qui est beaucoup plus familial. C'est quand même pas inintéressant de ce côté-là. C'est-à-dire que Superman s'appuie d'abord sur le précédent film. Mais malheureusement, le Superman sur lequel il s'appuie, c'est le premier, celui de 1978, heureusement qu'on l'a vu sur M6, juste avant la sortie donc du nouveau, parce que sinon, tout le monde aurait été largué. Bah oui, ça fait près de 30 ans, et le public américain, justement, a eu beaucoup de mal à suivre. Résultat des courses, malgré son plus faible budget, le deuxième Pirate des Caraïbes l'a bien doublé dans le box-office américain. Faut dire que c'est accompagné de la remise en service des attractions Pirates des Caraïbes à Disney World qui a été complètement revue. Mais d'un autre côté, Superman a un humour qui est assez adulte par rapport aux X-Men. C'est-à-dire, il y a de tout. Il y a pour les parents, il y a pour les enfants, il y a pour le fan hardcore, même s'il hurle devant l'un des ressorts scénaristiques qu'on ne dévoilera pas. mais je veux dire, il dit, quand on voit justement le rédacteur chef s'énerver qui dit, regardez le gamin, la photo qu'il a prise avec son téléphone. Et en fait, c'est exactement la même posture qu'a Superman dans sa première apparition dans le Action Comics numéro 1 de 1938. Quand à côté on montre, et c'est quoi la meilleure photo que t'as de Superman? Bah, celle-là. C'est un oiseau. Non, c'est un avion, c'est... Et voilà, et c'est
et
l'introduction.
Clark Kent qui entre dans le bureau et vous voulez le voir.
Et c'est en fait l'introduction que vous avez entendue tout à l'heure. It's a bird, no, it's a plane, no, it's Superman. Voilà, c'est en référence au frère Fleischer. Donc ça va bien dans à la fois, je vais dire, ceux qui ont découvert Superman uniquement à la télévision par la série Lois et Lane. Bon, ok, on l'oublie. Smallville. Et d'un autre côté, ceux qui connaissent justement toute l'histoire. C'est ça qui est étonnant, c'est que vous ne connaissez justement cette référence que si vous avez vu Arte, puisque c'est les seuls à avoir diffusé les frères Fleischer récemment. C'est la preuve qu'il y a un public qui est beaucoup plus familial que justement les X-Men. Les X-Men, c'est plus en identification. Ce sont des enfants qui mutent. Le syndrome du homard de l'adolescence, Carlos, Françoise Dolto, vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
l'incompréhension des parents, Françoise Dolto, son gamin Carlos. Le rejet des autres, Carlos, avec son obésité. Les brimades à l'école, Carlos et son obésité. La révolte et le rock'n'roll, Carlos. Et non, je crois que ça s'est un peu vu.
Mais tu parles du terroriste?
Oui, je crois, oui, de la chanson française. Bref, c'est pour vous dire que je commence à pédaler dans la choucroute, Thomas.
Tu fais un enchaînement sur les X-Men, là.
Oui.
Et puis on finira ensuite par le sentiment général sur les deux films. Enfin, sur les deux franchises, en tout cas. Bon, les X-Men, c'est toujours Bryan Singer qui était à l'origine de ça. C'était, je crois que le premier était sorti fin des années 90, il me semble.
Un peu plus tard,
au début des 2001. Années 2000, alors 2001, ouais, où justement c'était ce film-là qui avait relancé la vague des super-héros au cinéma. Ensuite était arrivé Spider-Man et puis d'autres films ensuite. Et justement le principal mérite qu'avait Bryan Singer, c'est qu'il avait su réactualiser, apporter une modernité à ses super-héros. En même temps, il a pas pris trop de risques, hein. Il s'est pas attaqué à Hulk, j'y reviens tout le temps, mais voilà, Wolverine, Magneto, ça a quand même notre gueule que Hulk. Et Superman en slip, tu vois. Donc il a pas trop pris de risques non plus, ça a marché. La difficulté, c'était qu'il y avait beaucoup de personnages, ce qui fait que quatre personnages, Mystique, Wolverine, Magneto et Professeur Xavier, le reste c'est ils sont super vides.
Ils sont juste survolés, ils apparaissent juste dans le fond. C'est pour le fan hardcore, c'est ah mais c'est un tel, ah mais c'est un tel, ah mais c'est un tel. Oui, bon, voilà. Mmh. C'est sympa.
Ouais, et un des nombreux attraits de X-Men, c'est que justement, ça a rompu avec la tradition des méchants de super-héros dans les films de super-héros, c'est qu'ils étaient cabots et cabotinés à mort, voir Jim Carrey, Tommy Jones, Schwarzenegger. Et là, justement, Magneto, il est sobre. Il est juste là, et Magneto, je manipule le métal, je vous emmerde. Et puis,
il
est vieux, il a
un vécu.
La choix,
Voilà, exactement. Ça, c'est énorme. C'est vraiment, il a une motivation, elle est montrée, et elle est pas totale. D'un autre côté, on peut s'y identifier. Quoi.
Et puis c'est un acteur de théâtre, et puis au contraire d'autres acteurs de théâtre qui en font des tonnes, lui il s'est resté en dedans. À part, il y a juste le personnage du crapaud qui m'a franchement énervé dans le 1, qui était absolument insupportable. Ce qu'on peut dire du 1, c'est qu'il servait surtout de bande-annonce pour le 2 parce qu'il était assez mou finalement.
Je pense que le Superman Returns là, c'est un petit peu pareil à mon avis, c'est-à-dire il pose un petit peu les trucs à plat et il dit bon voilà, c'est comme ça et maintenant on va pouvoir envisager quelque chose. Ça reste très calme quoi en fait, hein, parce que ce Superman Returns au niveau de l'histoire, c'est vraiment une histoire traditionnelle, vraiment traditionnelle, telle qu'on pourrait la lire dans un Superman, un vieux comics, tranquille, pas de fioritures, que dalle, on va pratiquement droit au but, ça s'enchaîne bien, il n'y a pas trop de longueur, il y a des longueurs quand même, mais pas trop, hein, de l'action. Bref, c'est tout à fait appréciable, c'est un bon film.
Et voilà, et il a les mêmes tares que le premier X-Men, c'est-à-dire que tu ne peux pas isoler une scène qui soit marquante du film. Enfin, à mon avis, en tout cas. Je sais pas si vous vous rappelez du premier X-Men. Est-ce qu'il y a une scène qui vous revient, à part l'intro où il y a
Eric
Lencher qui attire à lui la barrière en métal, mais à part ça, Superman,
la baston avec de Wolverine au début, quoi.
Ah, avec Dents de Sabre dans la neige.
Avant, dans le bar.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, première apparition de Wolverine au cinéma.
Faut pas viser les couilles.
Quand même, ça marque. Ça marque.
Justement, on attend du Superman 2 qui soit au même niveau que X-Men 2, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus fort que le 1, qu'il y avait une apparition d'un personnage qui n'était pas un super-héros, pas mutant, pas de super-pouvoir, c'était Stryker, qui était assez balèze puisque Brian Cox était absolument génial dans le rôle. Les personnages étaient un peu plus fouillés, t'avais une alliance entre les mauvais et les bons mutants, donc c'était assez intéressant de ce côté-là, le scénario. Et là, par contre, on peut isoler quelques scènes assez mythiques, assez marquantes, comme l'attentat de Diablo dans la Maison Blanche ou l'évasion de Magneto avec les quand il enlève le plomb du corps du surveillant.
Du plomb, c'est du fer.
Du fer, ou l'attaque de l'école.
Tu devrais y retourner.
Ah. Ouais, ouais. Bon, bah, tiens, t'as qu'à parler des X-Men. J'aimerais bien que tu nous parles du numéro 3.
Des X-Men. Moi, franchement, ce que je trouve absolument dommage, et c'est ce qui fait que je ne suis pas allé voir X-Men numéro 3, c'est que dans les X-Men, ils étaient pressés de mettre un maximum d'éléments, donc en fait, ils en ont trop révoilé pour les fans. Donc les fans étaient, ah, non, mince, pourquoi dire de suite d'où vient Wolverine? Ah, non, mince, pourquoi dire de suite ci? Pourquoi dire de suite ça? Pourquoi faire disparaître tout de suite tel personnage? Alors que les X-Men, c'est vrai que c'est beaucoup plus récent, donc les gens ont eu le temps de le lire sur la longue. Superman, d'un autre côté, ils sont appuyés sur le film, c'est-à-dire ils ont mis le même humour on peut le voir au premier et au second degré. Il y a les mêmes séparations X-Men, et beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. Il y a vraiment justement de ce côté-là aussi un côté beaucoup plus moderne et beaucoup plus désespéré. Superman, pas tant que ça. Loin de là.
Non, non, c'est plus familial et plus voilà.
Voilà, plus c'est, mené, c'est mené. C'est mené X-Men, c'est mené tambour bâton. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de scène réellement marquante. C'est parce qu'ils sont obligés d'en mettre rapidement à quatrième vitesse. C'est-à-dire, on comprend mal la séparation. Qu'il y a vraiment eu une lutte désespérée entre Magneto et l'équipe du professeur Xavier, et donc du coup dans le 2 on les voit fraterniser comme ça et tout, etc. Bah non, ils se méfient vraiment énormément, hein. Même si c'est un peu montré dans
d'où,
le film.
D'où la grosse déception du 2 quand même, c'est malgré ce que dit Bryan Singer sur la conversion commentée du DVD du 2, c'est que les fans, ils attendaient de voir Wolverine se muter en bête et attaquer à tout va en folie furieuse.
Eh ben, on l'entreaperçoit juste.
On l'entreaperçoit pendant l'attaque de l'école, mais ce n'est pas du tout le Wolverine qu'on connaît. Et puis l'attaque, bon, voilà, il fait juste un cri et puis il transperce un mec, voilà. C'est tout ce qu'on a et puis on reste quand même sur notre fin.
J'ai l'impression, en fait, malheureusement, que le réalisateur a un gros souci de ce côté-là, c'est comment chorégraphier une scène vraiment karaté.
Il fait jamais les choses à fond, ce mec, j'ai l'impression. Il est très fort pour avoir un univers esthétisant et avec des plans léchés, et puis pas de faute de goût, doux, sur un rythme assez lent et cool et tout. Mais quand il s'agit de faire des scènes qui tabassent et tout, et très furieuses, avec où ça pète dans tous les côtés, il est pas très... ou alors c'est pas son truc. Voilà, franchement, c'est pas son truc. Même dans Superman, quand il se prend l'avion, l'aide de l'avion dessus, voilà. Bah non, c'est au début, ça, on s'en fout. On spoil pas le film. Voilà, il sauve un avion et puis il se prend une aile et bon, il se prend une aile.
Oui, c'est...
Ouais, bop. Voilà.
On le voit tellement loin, c'est dommage parce que autant la réalisation, on le sent bien dans la caméra, la vitesse et vibrations et tout ça, mais autant on a cette distance et... Et X-Men aussi, finalement.
Toujours est-il que pour clore la parenthèse sur les X-Men, on va un petit peu parler du 3. C'est que le 3, justement, le gros attrait, c'était qu'enfin le scénario présentait une vraie menace pour les mutants. Puisqu'avant, bon, ils se prenaient des nions, au pire, ils mouraient, mais ils mouraient en tant que mutants. Là, le gouvernement a trouvé un vaccin pour guérir du côté mutant, pour enlever les mutations, surtout que certains mutants vivent leur don comme un fardeau. Et là, il y a certains mutants qui n'ont rien demandé, et puis ils risquent de se faire enlever leur pouvoir. Et ça, c'est beaucoup plus fort.
C'est l'énorme puissance de la bande dessinée, justement. C'est que Superman, pour lui, il vient. C'est une apparition christique, d'ailleurs. Il est là pour sauver la Terre, etc. Envoyé par Marlon Brando d'outre-tombe. Et... Oui, parce qu'ils ont réutilisé les rushs de Marlon Brando. Ça, on vous l'a pas dit. Mais d'un autre côté, voilà, quoi. C'est les X-Men, justement. C'est ça qui a fait l'énorme originalité de l'histoire. C'est que les héros le vivent très mal, leur pouvoir et tout le reste. Et c'est ça qui faisait un peu la force du 3, c'est que justement on leur proposait la possibilité de ne plus les avoir.
Alors certains acceptent, d'autres refusent et d'autres sont obligés de l'accepter alors qu'en défendant puisqu'on leur inocule de force. Et ça c'est vraiment une astuce de scénario assez forte. Le défaut c'est que la réalisation elle était assez molle par rapport aux deux autres. Pas au niveau de la baston parce qu'ils s'en tirent bien, mais au niveau du rythme général. T'as beaucoup plus de plans hollywoodiens déjà vus, des caméras ascendantes pour clore certaines séquences. Voilà, c'est un peu à vomir de ce côté-là. Toujours est-il que il faut bien départager ces deux franchises, puisque on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est la fantasy mondiale servait justement à amener à ce clash entre super-héros de maison ennemies.
Et finalement, historiquement rival entre historiquement DC rival, et Marvel.
Et bien ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue esthétique, d'un point de vue qualité de film et tout, on peut dire que ça se tient sensiblement les deux franchises, mais X-Men bénéficie de nombreux spin-offs qui vont être réalisés à partir de ces personnages. Il y a beaucoup d'X-Men, il y a beaucoup de mutants. Il y a eu plus d'épisodes récents, beaucoup plus de produits dérivés. Sur ce côté-là, on peut dire que l'X-Men gagne au tir au but. Sabrina, du sport, votre avis? Oui,
ouais, merci. Ouais, moi je suis du même avis que toi.
Je suis désolée, j'étais sur mes usines.
D'accord.
Enfin, tu peux répéter la question, s'il te plaît?
Non, on disait que les X-Men ont gagné par tir au but contre Superman, puisqu'il y avait, ils bénéficient de beaucoup plus de potentiel avec les produits dérivés, avec les spin-offs qui vont être réalisés à partir de Magneto, de Wolverine, etc.
Oui, surtout ça touche surtout la génération qui nous précède.
X-Men, moi je trouve que c'est franchement la cohérence par rapport au précédent, au premier Superman, c'est-à-dire vous verrez rien que le générique. Il faut voir le film avant. Il faut voir le film avant, mais c'est exactement les mêmes effets, mais avec les moyens d'aujourd'hui.
Le film d'origine. Hein.
Voilà, avec les moyens d'aujourd'hui, et ça se sent. C'est étonnant, tellement que c'est bien réussi. Et de ce côté-là, alors que les X-Men, justement, il n'y a pas eu de préparation. Superman, ils ont eu le temps de préparer.
Ils ont tout réinventé.
ils ont tout refait. Ils avaient déjà eu le temps de se préparer avec avec la série Smallville. Alors que les X-Men, non, pas tant que ça. Ils sont arrivés un peu comme un cheveu sur la soupe et en disant beaucoup trop. Ce côté-là, c'était un peu dommage, peut-être, à mon sens. Ça reste à voir. Du sport?
Oui, il a dit qu'il était d'accord.
Oui, du sport se mouille pas trop et il se dit, finalement, vous savez, on est sur Radio FMR, on n'a pas vraiment eu le temps de préparer, c'est quand même assez salaud. C'est vrai que c'est un peu préparé au pied levé et c'est subjectif, surtout.
Et en plus, je te vois ramer pour meubler et je me permets de préciser qu'on peut retrouver les images de la Fantasy Mondiale sur le site de l'émission.
Ça va, il est 13h, on peut passer à autre chose. Oui, donc il y aura les vignettes Panini de Fantasy Mondiale qui sont disponibles gratuitement sur le site de l'émission. Mais pas ça, pas de suite, je vais le faire ce week-end, hein, vous me laissez le temps.
Oui, fais ta sieste.
Voilà, ça. Et de toute façon, ce sera sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, et vous trouverez ce qui vous plaira dessus. Je vous rappelle donc aussi que les précédentes émissions et la plupart des textes sont disponibles sur le site internet radio www.radio-fmr.net. Sinon, vous cherchez supplément, week-end, FMR ou MP3, vous tombez sur nous. Vous pouvez écouter les précédents épisodes et tout. Coucou. Vous pouvez même nous voir des fois. Du sport, je dirais, en tant que chroniqueur, en tant que... mince.
Le quoi déjà? Journaliste?
Non. Le réalisateur français, François Truffaut, je dirais... Non. Godard. En tant que Godard du sport, c'est quand même assez grandiose, hein, comme photo. Mais bon, du sport d'ailleurs vient de mettre la programmation.
Alors, Xavier, ton enchaînement est totalement raté.
Oui, mais il a mis la programmation musicale suivante. Charlie Parker sur Radio Éphémère 89.1 MHz. Vous ne rêvez pas. C'est du sport.
Bah ouais, on est dans mon heure là, hein, tu vois quoi. Avec c'est sorti la semaine dernière en supplément de l'équipe du samedi. Supplément du supplément, hein, c'est-à-dire il y a toujours le supplément du samedi dans l'équipe qui s'appelle l'équipe magazine, est sorti donc ce numéro spécial. Ils avaient prémédité le coup, mais enfin bon, ils avaient certainement pas prévu ce qui s'était passé le dimanche avant.
Coup de boule.
Le coup de boule.
Le coup de boule.
En fait, t'as la photo hein, quand même dedans. Quoi.
Si vous savez combien rapportait le titre parodié.
Spécial Zidane. Donc, il était une fois Zidane avec la couverture. Donc, t'en as parlé avant de Bilal. Hein, c'est-à-dire que les mecs, ils ont pas fait les choses à moitié. Hein,
mais Bilal est un fan de foot. Hein.
Remarque, je veux te dire, moi, à mon avis, Bilal, il a été payé très cher pour faire ce truc-là, mais je vois qui a payé, tu vois. Il suffit de dépiller et t'as compris.
On t'a compris.
Ok. Et donc il y a tout sur Zidane, tous les chiffres, tous ces matchs joués, plein de photos. Enfin bon, c'est génial.
Et
puis
et son coup de tête.
Et des trucs pas
non,
mal.
Non, justement.
Des trucs, des témoignages qui concernent son parcours footballistique, hein, c'est-à-dire là où il a commencé, petit quartier à Marseille, puis après à Cannes, puis après à Bordeaux, puis à Juve. Et chaque fois avec un partenaire un petit peu privilégié qu'il a connu, genre Dugarry, Deschamps, enfin bon.
Copain Dugarry.
Ouais, le copain quoi, tu vois.
Et Sabrina, le,
voilà, bon, enfin bon, c'est trop tard. Hein, fallait l'acheter samedi dernier.
Désolé, alors, on n'a pas fait émission samedi dernier.
Ouais. Et comme vous l'avez entendu, hein, on le rabâche, on le répète depuis le début de l'émission. Hein, nous, on prépare les émissions du samedi matin à la bourre, vite fait, comme ça. Et tout,
c'est faux, moi, c'est le vendredi soir jusqu'à samedi matin.
Et ce matin, le coup de fil et tout. Ouais, tu sais quoi, Mickey Spillane est mort lundi dernier. Mickey Spillane, je dis merde, aïe. Et puis en plus, j'en avais déjà parlé. Hein,
ah oui.
De Mickey Spillane donc il a rendu son âme paisiblement dans son lit tranquille hein. En plus,
c'est plutôt inédit.
Très vieux, hein, super vieux, hein, quand même, parce qu'il est
88
né.
88 ans. Hein.
Ouais, il est né le 9 mars 1918, un petit peu avant la fin de la guerre. Il est né à Brooklyn, donc à un petit quartier de New York, d'un père irlandais. Son vrai nom c'est Frank Morrison Spillane. Il a passé son enfance dans New Jersey, puis il suit des cours au Kansas State College. Il abandonne ses études en 35 pour écrire des histoires dans les magazines et les pulps et débute sa carrière avec des scénarios pour les comics Captain Marvel et Captain America.
Tiens donc,
on y revient toujours.
Est-ce qu'il serait pas un peu à droite hein?
Affecté dans l'aviation pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe à plusieurs opérations et il est également entraîne les jeunes pilotes en 45, il est démobilisé. Et donc il continue d'écrire des scénarios pour les comics, mais il travaille également pendant une courte période, ça c'est rigolo, comme artiste de trampoline au cirque Ringling Brothers, Barnum et Bailey, c'est-à-dire ce qui se faisait de mieux comme cirque itinérant aux États-Unis, hein, c'était le haut du panier. À la même époque d'ailleurs, il collabore avec le FBI pour démanteler un réseau de trafiquants de drogue. Résultat des courses, 2 blessures par balle et une blessure au couteau.
Ah oui, 47, donc lui aussi, il a du vécu, quoi.
Il a du vécu, quand même. En 47, donc, sort son premier roman, J'aurai ta peau, Hide the Jury, hein, le titre original, dont le héros Mike Hammer est un détective privé violent, brutal, voire sadique, très rétrograde dans ses convictions sur les minorités ethniques, homosexuelles et sur les intellectuels en général. 11 autres romans vont suivre jusqu'à 1989, hein, qui ont pour héros Mike Hammer. Hein, suivent après Hide the Jury, le premier, hein, J'aurai ta peau. Fallait pas commencer en 50, Hide the Jury sort en 47, le second en Vengeance is Mine en 50. Et là, il commence à pisser de la copie assez régulièrement, puisque 2 bouquins sortent en 50. Fallait pas commencer et pas de temps à perdre, dont le titre original. Les titres originaux sont plus explicites, quoi, de toute façon, chez Mickey Spillane, que les traductions françaises. Fallait pas commencer, c'est Vengeance is Mine. Et pas de temps à perdre, c'est My Gun is Quick. Ensuite, on a Dans un fauteuil en 51, The Big Kill, hein, ça là c'est pareil. Et d'ailleurs, le premier, le titre du premier, Hide the Jury, hein, c'est un petit peu une référence. Faut dire que Mike Hammer a été suivi par un nombre de auteurs de polar ou de bandes dessinées un petit peu hard-boiled. Hein, faut dire que Hide the Jury, ça représente bien Judge Dredd, par exemple, hein, qui est exactement un petit peu la même personnification, hein, même genre de personnage. Hein, c'est moi, je suis tout à la fois. ensuite, en 52, j'allais oublier, en quatrième vitesse, donc Kiss Me Deadly, En 1951 également, après, dans un fauteuil The Big Kill. En 52, il interrompt sa carrière en devenant témoin de Jéhovah pour aller prêcher la bonne parole dans les foyers américains. Il reprend la plume en 1961 pour écrire d'autres titres avec son héros Mike Hammer et crée un nouveau personnage qui s'appelle Tiger Man, qui en fait est une copie conforme de Mike Hammer, sauf que ça se passe plus dans le milieu de l'espionnage parce que c'est un héros qui combat et supprime les agents communistes. Avec des titres tels que Corrida ONU, hein, Day of the Gun en 64, ou Surprise Sanglante, traduction bizarre de Bloody Sunrise en 65, Court-Circuit The Bypass Control en 66. Et il, parallèlement à ça, il continue à sortir dans des titres avec Mike Hammer, dont quelques-uns bien fameux. De toute façon, je vous ferai la critique à la fin. En 64, donc sur le serpent The Snake. En 66, interdit aux moins de 16 ans The Twisted Thing. Et le dernier Mike Hammer, en fait, est un bouquin qui l'a écrit assez vieux, hein, puisqu'il est sorti en 1989, qui s'appelle L'homme qui tue, The Killing Man. Alors, au niveau des polars et au niveau des Mike Hammer, hein, il faut conseiller de toute façon, hein, les 3-4 premiers, Kiss Me Deadly bien entendu, et L'homme qui tue est vraiment pas mal aussi. Il y a quelques autres romans qu'il a sortis dans les années 70, In the Baba entre autres, qui sont pas mal, mais pas avec Mike Hammer, hein, avec le roman comme ça, mais vraiment pas mal aussi. Donc les 4 premiers, hein, si vous voulez savoir de quoi ça parle un petit peu, c'est pas de la littérature vraiment, on va dire, enrichissante, hein, mais c'est ça va droit au but et tout. À l'époque, ça cartonnait, donc pas mal. Mike Hammer également, on le connaît grâce à la télé, mais il a connu d'ailleurs une carrière à la télé très
tardive.
Non,
mais assez très longue.
Très soudaine, en 58, hein, il y a un feuilleton de 78 épisodes qui sort qui s'appelle Nick Espeland, Mike Hammer.
En
58 sur la CBS. Et ensuite, on passe bien sûr à la série des années 80 avec Stacy Keach dans le rôle titre. Également sorti par la CBS, alors il y a eu deux périodes, en 83-85 avec deux téléfilms de 90 minutes plus 24 épisodes de 52 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que en 85, eh ben, à Londres, Stacy Keach se fait arrêter avec pas mal de coke sur lui et donc fait 6 mois de prison. Ce qui oblige la production CBS à interrompre le tournage de la série qui reprend en 86 et en 87 pour 22 nouveaux épisodes. Lui, il a passé 6 mois au trou, tu vois, quoi, à Londres en plus, tranquille, Stacy Keach.
Hey les gars, il y a Mike Hammer!
Il y aura également un téléfilm en 89, de 90 minutes, puis une espèce de retour dans les années 97-98, 24 épisodes de 60 minutes, mais cette série est encore inédite en France. C'est une série qui s'appelle Mike Hammer Private.
Attends, la série canadienne?
Je suis incapable
parce
de
qu'il y a
te
une
le
série,
dire.
Il y a un remake canadien qui a été fait au début des années 90 qui a été diffusé sur France 3.
Oui, non, là,
c'est catastrophique.
Ça, c'est la fin des années 90, hein, 97-98.
Ah, pardon.
Voilà. Et sinon, au ciné, bon, le monument qui reste de toute façon de l'œuvre de Mike Espeland, hein, c'est bien entendu l'adaptation de En quatrième vitesse, à savoir Kiss Me Deadly, hein, le film de Robert Aldrich en 55 avec Ralph Meeker, avec Michael Carr. Le film est magnifique, génial. L'histoire vers la fin s'éloigne un petit peu de l'histoire originale dans le bouquin, mais bon, Robert Aldrich détestait Mike Espeland comme c'était pas permis, hein, il disait que c'était un enculé de fasciste, donc bon, on compris qu'il ait voulu un petit peu, on va dire, modifier la teneur du récit du bouquin original. Kiss Me Deadly, en plus, dont le titre s'écrit Kiss Me, virgule, Deadly. Et Mike Espeland, à l'époque, qui était tout puissant, on va dire, dans le monde de l'édition, avait fait disparaître, fait mettre au pilon 50 000 bouquins parce qu'il manquait la virgule entre Kiss Me et Deadly, pour te dire le genre de bonhomme que c'était Mike Espeland. Donc paix à ton âme quand même, mon petit gars. Il y a également un autre petit film mineur tiré de son premier roman, Head the Jury, qui était sorti en 53, hein, de Harry Essex, mais enfin bon, qui est pas resté dans les mémoires. Il y a eu au total 7 films qui ont été sortis, dont même un où il interprète lui-même le personnage de Mike Hammer, qui est vraiment assez nul. Hein, c'est pas la peine. Heureusement qu'il y a d'autres personnages qui jouent, d'autres acteurs qui jouent, parce que bon, ça rehausse un petit peu le ton du film. Mais sinon, bon, bah, ok, hein, c'est pas terrible. Hein, il reste au niveau du le seul film potable, hein, donc sorti des œuvres de Spielberg, c'est quand même Kiss Me Deadly. Voilà, un peu de télé à présent, hein, un petit peu de trucs plus légers. Non, pas tellement plus légers en fait, hein, parce que depuis la semaine dernière sur TF1 le samedi soir. Après les amusettes du samedi soir, on va dire là, bah depuis qu'on a Lost, bah après faut meubler et puis bon, comme 22h20, deux épisodes de Lost, ça fait un petit peu tôt pour diffuser des trucs genre New York Unité Spéciale parce que bon, des fois c'est des trucs quand même un peu trash. Ok, bon, on passe du truc un peu plus léger, à peine plus léger, on va dire, au lieu d'être estampillé moins 12, en fait c'est estampillé moins 10, donc ça peut passer quand même avec preuve à l'appui. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que bon, ils nous diffusent les saisons inédites. La saison 5 hein, de cette excellente série hein, dont j'ai parlé, mais je sais pas, mais quand elle passait le dimanche après-midi hein, systématiquement avec le docteur Jordan Cavanaugh hein, interprété par Jill Hensy, avec la semaine dernière donc à l'occasion de la diffusion des deux premiers épisodes inédits, eh bien un crossover avec la série Las Vegas, c'était vraiment excellent hein. On voit Josh Duhamel hein, c'est-à-dire le mec qui est un petit peu le fils spirituel de James Caan dans la série Las Vegas et qui arrive à Boston donc hein, dans le service de médico-légal de Jordan Cavanaugh pour démêler une intrigue. Cette semaine deux épisodes pièges sans issue et remise en question, c'est ce soir à partir de 22h20 donc après Lost. Sinon un petit Taggart, ça vous dit, cet après-midi au lieu de faire la sieste à 14h45 sur France 3, Taggart Brigade Criminelle, mais sans Marc Manus, c'est-à-dire Taggart, pourquoi ? Parce qu'il est mort entre temps, et puis que c'est une rediffusion. On a dit qu'ils se sont dit bon bah ça marchait bien, les séries, la série était intéressante, les histoires étaient tenaient vraiment debout, c'était vraiment des petits polars à chaque fois, tu vois, enfin bon, des trucs vraiment très très bien. Bon, il y avait également la qualité de l'interprétation de la part des différents acteurs. Et là, bon, bah, ok, c'est James McPherson qui, en fait, était le souffre-douleur, faire-valoir, on va dire, de Marc McManus à sa alias Taggart. Mais également, eh bien, dans ce téléfilm, Les risques du métier, également, la présence d'autres sérieux acteurs anglais, voire écossais, tels que John Michie, il y a Bliss Duff, c'est, bon, bah, le faire-valoir féminin, on va dire, et Colin McCree. Donc, c'est pas n'importe quoi. Cet après-midi, à partir de 14h45, sur France 3, Taggart, Brigade Criminelle. Sinon, un petit épisode de Highlander. C'est con que t'aies pas le générique.
Oh, ah, attends, ça va
allez,
se retrouver,
vas-y.
Ça.
Ouais, ouais, fais-moi ça, là.
Bon, d'accord, ok. Valentine. Non, Thomas, aide-moi, quoi.
Non, mais je ne connais plus après. Non, Manus, tu nous écoutes. Numéro de la radio 0561 580 580.
Non, ce sera trop tard de toute façon. Mais de toute façon, je ne
Highlander,
l'ai pas.
Highlander, donc. La série est rediffusée en ce moment sur W9.
Ouais. C'est tous je suis les tombé jours. Dessus par hasard.
Ouais, ouais. C'est tous les jours à 19h, hein, du lundi au vendredi. Il y a un épisode peut-être à pas louper. Il y en a quelques comme ça où
on mais j'aime bien la série. Elle est vraiment bien.
La série est bien, quoi. Pas mal, quoi.
Elle tourne en rond.
Ouais, mais t'y connais rien.
T'y connais rien, toi.
Oh, d'accord.
Il y a la présence d'acteurs qui sont généralement des seconds couteaux, mais qui sont vraiment de bons acteurs, qui sont toujours sérieux et tout. Il y a la présence de Roger Daltrey, par exemple, dans la série Highlander. Roger Daltrey, le chanteur des Who.
Ah, d'accord.
Voilà, d'accord. Et dans l'épisode que je vous propose la semaine prochaine, vendredi prochain, qui s'appelle État de siège, qui a été tourné en 92, donc hein, je crois que la série a commencé en 90 ou en 91, donc c'est la deuxième saison, la troisième saison, eh bien, une débutante dans le métier, pratiquement, Marion Cotillard, toute jeune, toute petite, et avec à ses côtés, comme partenaire, un type qui deviendra le mentor de Buffy par la suite, Anthony Stewart Head, Giles, en fait, dans le même épisode donc de Highlander la semaine prochaine sur W9.
D'ailleurs, c'est marrant pour ceux qui sont accros au téléfilm de TF1, Alexandra Van Der Noot.
Bah oui, elle sur la péniche, hein, à Paris en plus, ouais, hein, puisque bon, y a pas mal d'épisodes.
Production française,
canadienne, française, pas mal d'épisodes qui ont été tournés à Paris entre autres, donc sur la péniche. Sinon, une nouvelle série, pas tout à fait nouvelle, enfin bon, elle est passée relativement inaperçue parce que ça a pas été franchement un gros succès. Bon, David Ekeley, c'est quand même un mec qui nous avait habitué à des trucs un petit peu plus carton et qui rapporte plus, genre Ally McBeal, tu vois, quoi.
Oui,
hein.
Cartoon,
c'est génial, Ally McBeal.
Un peu plus cartoon.
David Ekeley, c'est le bonhomme que quand tu vois Michel Pfeiffer, tu dis, c'est qui le mec à côté? c'est le mari de Michel Pfeiffer.
Ouais.
Ouais.
Oui.
Voilà. C'est l'ancien avocat, là.
Voilà, ouais. C'est ça, qui a fait également, je crois, The Practice.
The Practice, ouais, qui
était voilà, bien voilà. Et là, il s'agit d'une série qui s'appelle Snoops, plus ou moins une série, où le personnage principal, est chargé d'infiltrer, on va dire, des réseaux pour les démasquer.
Excuse-moi du spoiler. Je crois qu'il y a une série sur la Une, justement sur les avocats, et c'est David Kelly qui produit.
Boston Legal.
De Los Angeles.
Voilà, tout à fait. Je crois que c'est Boston.
Boston Justice.
Ouais, c'est le même principe que Lynn McBeal. C'est aussi délire. C'est pas mal.
Ok, là il s'agit de Snoops, donc produit par David Ekeley, mais la seule bonne nouvelle quand même, c'est la présence de Gina Gershon dans le rôle titre, donc
là
les mecs ils adhèrent tout de suite, mais par contre il paraît que en dépit d'un pilote excellent, bien le reste de la série va en s'étiolant, histoire pas terrible, et interprétation pas terrible non plus, c'est sur Fox Life. Tous les dimanches soirs à partir de 20h45, ils loupaient pas le pilote, donc c'est demain soir à partir de 20h45.
J'adore comment ça casse avec du sport.
Ah, c'est du sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
Et là, je vous propose, ouais, là ça va être pire. Là, c'est du bip bip estampillé moins 12 avec. Je vous propose Boogie Nights. Vous avez vu le film Boogie Nights avec Paul Anderson et tout, mais en version Hollywood Stories, les interdits.
Ah non.
Avec un spécial John Holmes, justement, hein, le mec qui a inspiré le Boogie Nights, hein, le personnage principal interprété par Mark Wahlberg. Son vrai nom, c'était John Holmes, vu qu'il est mort dans les années 80, et donc on propose l'histoire traitée à la façon Hollywood Story, hein, c'est-à-dire c'est des reportages vachement nerveux avec des suites de photos généralement, il y a très peu d'extraits d'images animées, d'extraits de films parce qu'ils n'ont pas les droits.
Ils ont des interviews tout au mieux.
Ils ont des interviews de personnes qui ont été proches qui ont écouté ce que la personne concernée disait à un moment donné, alors on n'aurait pas de famille, enfin tu vois, genre
du stock shoot avec petit effet vieux film dessus.
Ouais. Là, quand même, bon, il s'agit de la totale sur John Holmes. Ils ont fait une tartine. Hein, ça dure une heure et demie, quand même, pour apprendre quelle était la vie de ce bonhomme. Hein. Sa vraie vie et toutes les nanas qui a niqué. Enfin bon, bref, c'est ce soir sur Paris Première à partir de 22h25. Sinon, comme tous les dimanches soirs, un cold case donc sur France 2 à partir de 20h50 avec deux épisodes inédits, saison 2, Faux Coupables et Génération Perdue, cold case qui est d'ailleurs à l'honneur dans la rubrique Télémaniaque du nouveau Mad Movie de ce mois-ci, Martin Winkler, il déclare carrément que Cold Case c'est la meilleure des séries que Bruckheimer produit. Bon, alors, on va lui apporter un certain crédit, et c'est vrai, il nous apprend également, je savais pas quoi, et c'est vrai que c'est présent dans la série, c'est un petit peu sous-jacent, mais c'est la musique. Hein, y a des extraits musicaux comme ça qui passent de temps en temps, qui sont chargés un petit peu de meubler ou de mettre dans une certaine ambiance. Et ce sont toujours des morceaux qui sont assez choisis, qui se réfèrent toujours à l'époque, des flashbacks qui sont assez récurrents dans cette série Cold Case. D'accord. Mais il faut savoir que pour pouvoir produire une partition musicale et des extraits comme ça de morceaux qui ont été des tubes, des hymnes dans les années citées, bien il faut acquérir les droits et tout ça, ça prend vachement de temps, et eux ils prennent le temps justement d'acquérir les droits pour pouvoir proposer une partition musicale et donc une musique totale hein, qui soit à la hauteur un petit peu de du reste du projet. Donc faut aussi dire que c'est une série qui tient un petit peu la route, qui contrairement aux autres hein, développe un petit peu certains aspects, on va dire sociétaux, un petit peu différents, un petit peu plus ancrés à gauche, on va dire, hein. Il y a quand même une petite soupape là dans ces petits trucs là de temps en temps, quoi. Si il y avait l'épisode dimanche dernier hein, sur la libération civique des Noirs et tout, c'était vraiment flagrant, tu vois, il y a des trucs qui cassaient pas mal quand même, quoi, tu vois, ça c'est intéressant quand même. Donc c'est Cold Case, c'est tous les dimanches soirs sur France 2 à partir de 20h50. Sinon, en même temps, sur Canal+, fait dans l'inédit, et depuis plusieurs saisons Canal+ a choisi la télé britannique et les séries britanniques, et là c'est une nouvelle série de flics. Là, de flics infiltrés, Ghost Squad, c'est le titre de la série, donc diffusé par Canal+ demain soir à 20h55, avec Hélène Cassidy qui interprète le rôle de Amy Harris, qui est une flic qui fait partie de la police des polices en fait, hein, et qui va enquêter dans différents commissariats pour voir s'il y a des flics qui auront pu et ces petites histoires comme ça. La série a beaucoup fait parler d'elle, hein, parce que c'était la première fois, je crois, en Angleterre qu'on abordait les problèmes de ce style là puis les flics ont un peu gueulé, les syndicats de flics, parce qu'ils disaient ouais non, on n'est pas pourris comme ça, c'est pas possible et tout, enfin bon, hein, ça ne reste que des histoires pour l'instant. Et Canal+ qui diffuse également la saison 4, maintenant on est déjà à la saison 4 de MI5, autrement dit Spooks, la version originale, où il n'y a plus personne hein, de la de l'équipe originelle première saison, puisque bon, McFadden...
Je crois que le premier épisode de la saison 4 a une particularité.
Il reste que Nicolas Walker, en fait, hein, de la série originale, de la première saison, en fait. Mais il y a la présence de Peter Furst.
Je crois qu'il y a une énorme particularité dans la première saison, c'est qu'il y a un attentat. Dans le premier épisode de la saison 4, pardon. C'est qu'il y a un attentat et ils ont raccourci en catastrophe parce que c'était 4 explosions dans le métro de Londres.
Eh ouais, bah,
et ça a été diffusé 2 mois après. Hein.
Eh ouais, MI5, donc c'est visible sur Canal Plus mardi prochain à 20h50, hein, la saison 4, donc avec Peter Furst, donc aux côtés de Nicolas Walker. Peter Furst, qu'on peut également voir, je rappelle, dans le rôle du moine fourbe dans Frère Katfael, qui est diffusé tous les dimanches soirs sur Paris Première. Donc sinon on va terminer par pas mal de western. Ouais, ça vous dit hein,
Yes. Oh merde,
on s'est surpris à re-regarder La Prisonnière du désert sur Arte jeudi dernier, donc en VO c'est nettement plus appréciable hein, de toute façon hein, terrible.
Et ouais, ça a vachement vieilli quand même, les films de John Ford, je trouve. La chair de la cavalerie, c'est ridicule.
Ouais, non, mais c'est bon, faut le regarder comme ça. Moi, je regarde comme je regardais quand j'étais gamin, quoi, tu vois.
Alors que tu vois l'Horde sauvage, tu peux encore le regarder aujourd'hui, ça a pas vieilli d'un point.
Ouais, non, mais c'est pas comme ça, il faut le regarder.
Non, mais le western, il faut les. Faut
les Sergio Leone, ça a pas vieilli non plus. Les classiques comme ça, moi, je trouve, c'est. Bon, bref.
Ça va,
il faut être habitué au western.
On est assez meublé, il est 13h26.
En tout cas, Arte qui continue dans cette veine, avec la semaine prochaine, lundi prochain. À 20h40, ce qui est pas vraiment un western, enfin bon, c'est quand même un western, hein, c'est Bandido, le Richard Fleischer de 56, Richard Fleischer, qui nous a quitté il y a pas si longtemps que ça, hein, je le rappelle, hein. Et dont la musique est de Max Steiner, c'est le même mec qui a fait la musique de La Prisonnière du désert, là, qui fait Bandido, donc, avec dans le rôle titre Robert Mitchum. Et Gilbert Roland, c'est l'histoire des deux aventuriers, je sais pas si vous avez déjà vu, deux aventuriers qui se retrouvent au Mexique pendant la guerre civile pour vendre des armes. Et donc, il y en a l'un des deux qui va vendre des armes aux rebelles, l'autre qui va vendre des armes aux forces gouvernementales. Et puis bon, c'est l'histoire de chasser croisé entre les deux, à travers justement les factions qui s'affrontent. C'est vraiment très très bon. Excellent Mitchum, de toute façon. Il y a également Ursula Tiss et Zachary Scott, donc dans ce Bandido diffusé lundi soir sur Arte. En version originale. Et en même temps, c'est con parce que sur Cinépolar, lundi soir, il y a une soirée Bob Mitchum spéciale,
yes,
avec 3 films de Bob Mitchum et que des polars en plus. Hein. À 20h45, Le Paradis des Mauvais Garçons, un Sternberg de 52 avec Jane Russell. À 22h10, ça commence à Veracruz de Don Siegel en 49. Et à 23h25, Fini de rire en 51 avec de James Farrow. Tout ça donc sur Cinépolar lundi. En même temps que le Bandido. Alors là, c'est vraiment con. Bon,
c'est, voilà. Si vous m'aidez pour sortir les gravats, je pense que c'est envisageable chez moi.
Ok, sinon, du western encore. Mais là, pas sur Arte, mais il y en a un sur Ciné Classique mardi prochain à 20h45. C'est Le Sabre et la Flèche de André de Tote. Un western 53 avec Broderick Crawford et Barbara Hale. Et le western de jeudi prochain, donc sur Arte, c'est Les Deux Cavaliers de John Ford, encore du John Ford, un hein, Ford de 61 avec James Stewart et Richard Widmark, donc là, il hein, y a pas photo de toute façon, Richard Widmark, excellent, et dans les rôles féminins, Shirley Jones et Linda Cristal, ça se passe également un petit peu au Mexique, enfin bon, au Nouveau-Mexique, enfin bon, pas loin, quoi, tu vois, où il y a des
ouais, dans le coin, quoi.
Et tout, ouais, bah, comme la Cavalière du Désert, là, bon, ils vont truc et tout. Ok, bah voilà, bah c'est tout. Hein. Et encore, repose en paix, Mikos Pilan. Bien que tu sois un enfoiré de première quand t'étais vivant, c'est pas grave, t'as quand même écrit des bouquins pas mal. Faut quand même le reconnaître. Mike Hammer, ça restera quand même vachement longtemps dans l'inconscient collectif. Et il faut pas oublier, je répète, hein, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont été un petit peu, peut-être indirectement influencés par... par les bouquins de Mickey Spillane.
Sur TV5, en ce moment, toute cette semaine, il y a eu en soirée, il y a eu des thèmes du cinéma fantastique.
Ça t'aura jamais dans Télérama, quoi, un truc comme ça.
Des thèmes du cinéma fantastique qui étaient revus, et notamment hier, il parlait de la mort. Et ça commençait par, je sais plus quelle était l'histoire, mais donc c'est des policiers qui trouvent un cadavre dans une piscine. Ils tractent le cadavre et en voix off, c'est le mort qui parle et qui dit c'est marrant comme les gens sont gentils une fois qu'on est mort. Oui, bon, voilà. Non, j'en fais un peu trop, peut-être. D'accord, ok. C'était Supplément Week-end, émission numéro pas mal et des trousmuches du 22 juillet 2006 sur Radio FMR 89.1 MHz. Émission est préparée un peu en catastrophe avec la finale du Supplément Week-end Fantasy Mundial avec Thomas du Sport et Sabrina. Et donc réalisé par Xavier avec à la suite de sur Radio FMR, et ben on ne sait pas, mais au moins vous savez tout de suite du sport. Mais en attendant, le résumé vous est présenté par Thomas.
Aujourd'hui, il y a eu de l'enregistrement tardif sur mini-disc.
Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast.
Tu as eu une faute de frappe concernant un certain Juju. tu as oublié de charger des malpolis. Il y a eu le clash des super-héros. Donc, tu l'as dit, finale de la fantasy mondiale. Il y a une preuve que je dois retourner à l'école. Sabrina a passé l'émission à lire Mélusine, mais elle a eu le temps quand même de participer à la chronique TV2 du sport. Une bio de Mickey Spillan. Et puis voilà, avec quelques pelures aussi. Délégué à collatéraux et puis tout le bazar.
Voilà, nous on se retrouve. Je ne sais pas si je suis là la semaine prochaine, Thomas.
Ouais, tu es là ? Moi d'ailleurs, je ne sais pas non plus si je suis là la semaine prochaine.
Ce sera la surprise. Écoutez Radio FMR 89.1 MHz samedi prochain à 22 à midi. Peut-être qu'on sera là. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur net www.radio-fmr.net ou chercher sur Google Supplément Weekend MMP3. Et vous pouvez réécouter tous nos programmes et même en plus, vous pourrez les commenter. Ouais, c'est pas génial ça. Allez, ciao à tous. Nous, on va suer dehors, on va se prendre une bonne douche, je ne sais pas, on va voir. Et puis voilà,
bon,
nous, on... je vous laisse avec du sport.
Ciao.
Bon après-midi.